VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Gaillac au micro en direct de Washington DC. Bienvenue à cette édition du mardi 3 avril 2018. À la une ce soir au Cameroun, 5 militaires tués dans l'extrême nord, Boko Haram pointé du doigt. Élection en RDC, Séoul met officiellement en garde contre l'utilisation des machines à voter fabriquées par une firme sud-coréenne. Et en partie magazine, retour sur la rencontre hier entre le président guinéen Alpha Condé et le chef de l'opposition, Sédou Dalein Diallo.
À l'heure actuelle, M. Dalein est empêtré dans des difficultés énormes au sein de l'IFDG où son leadership est fortement contesté.
Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Dans le sud de la Centrafrique, un casque bleu a été tué et 11 autres blessés dans l'attaque d'une base de l'ONU ce matin. Des milices anti-Balaka ont pris pour cible une base temporaire des casques bleus à Tagbara, près de la ville de Bambari. L'ONU fait état de plusieurs heures d'échanges de tirs et compte plus de 22 anti-Balaka tués. La MINUSCA indique par ailleurs avoir découvert les corps sans vie de 21 civils. 13 hommes, 4 femmes et 4 enfants près d'une église de Tagbara. L'armée camerounaise endeuillée par la mort de 5 soldats dans l'extrême nord du Cameroun. Ils ont été tués au cours d'une attaque attribuée à Boko Haram selon les autorités de sécurité du pays. Plus de précisions avec le correspondant de VOA Afrique à Yaoundé, Emmanuel Julentap.
C'est à bord de pick-up que les combattants de Boko Haram ont attaqué un poste avancé du 41e bataillon d'infanterie motorisée dans la nuit d'hier à Fotokol. L'attaque violente, précise les sources de sécurité, a coûté la vie à 5 militaires camerounais, dont un lieutenant, par ailleurs chef de détachement, venu en renfort à partir de leur poste de Ngoulouma, dans la région de l'extrême nord. 3 autres soldats camerounais appartenant à la force multinationale mixte seront blessés par les mêmes assaillants, d'après les sources hospitalières de la région. Les combattants de Boko Haram ont aussi emporté un canon de guerre de l'armée camerounaise et incendié complètement le poste de combat de Sakmé. Depuis dimanche dernier, l'on note un regain d'insécurité dans l'extrême nord du pays, une région en proie aux attaques répétées de Boko Haram. Au moins 9 personnes sont mortes entre dimanche et hier soir dans 3 attaques attribuées aux combattants de Boko Haram, selon les autorités administratives de la région de l'extrême nord. Yaoundé, Emmanuel Julentap, VOA Afrique.
Élection en fin d'année en RDC, la Corée du Sud a officiellement mis en garde contre l'utilisation des machines à voter fabriquées par une firme coréenne. Séoul redoute des conséquences négatives sur le scrutin. On fait le point avec Claire Morin-Gibourg.
Séoul estime que l'utilisation de ces machines pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables ou un nouveau retard de la tenue des élections. Les autorités sud-coréennes ne veulent pas que ces machines deviennent la cible des critiques et disent partager les préoccupations de la communauté internationale sur la tenue de ces élections. Début janvier, la CENI a commencé à importer en RDC des machines à voter fabriquées par la société sud-coréenne Miru System dans le but de réduire le temps de vote et la période d'attente de l'annonce des résultats, mais aussi la fraude électorale. Un écran tactile permet aux électeurs de choisir ses candidats et la machine permet des résultats en temps réel. L'opposition, qui a accepté le calendrier électoral, prévoyant les élections le 23 décembre, refuse l'utilisation de ce qu'elle surnomme les machines à tricher.
Et nous restons en RDC. Les ravisseurs du prêtre catholique Célestin Ngongo exigent une rançon de 500 000 dollars pour sa libération, d'après l'Église catholique. Prêtre du diocèse de Goma dans le Nord Kivu, l'abbé Célestin Ngongo a été enlevé par des hommes armés non identifiés dimanche après la messe de Pâques. Les enlèvements des prêtres se sont multipliés depuis 2012 dans la province du Nord Kivu notamment. RDC toujours, le journaliste Eliezer Tambwe est détenu depuis 24 heures par le parquet de Kinshasa. C'est ce que dénonce l'organisation congolaise Journaliste en danger. Il est accusé de chantage par le gouverneur du Kasaï oriental. Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro estime qu'il faudra du temps avant d'arriver à unifier les deux parties de la coalition gouvernementale, un débat qui agite la scène politique avant la présidentielle de 2020. Un djihadiste malien doit comparaître demain devant la Cour pénale internationale. Alassane Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud fait face à des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il a été remis à la CPI samedi par les autorités maliennes. Il est notamment accusé de faits d'esclavage sexuel et de destruction de mausolées de Tombouctou, selon un communiqué de la CPI. En Afrique du Sud, Winnie Mandela aura droit à des funérailles nationales le 14 avril. Les hommages à l'ex-épouse de Nelson Mandela décédée hier se poursuivent. Les Sud-Africains n'ont pas oublié son combat contre l'apartheid malgré son implication dans des dossiers controversés. Patricia Young.
Depuis hier, de nombreuses personnes ont défilé devant la résidence de Winnie Madikizela Mandela à Soweto. Elles sont venues rendre un dernier hommage à celle que l'on surnommait en Afrique du Sud la mère de la nation.
Maman Winnie Mandela était la voix des sans-voix. Elle représentait les ouvriers, les laissés pour compte. Elle a été une combattante sous l'apartheid. Sans elle, la nation est maintenant plus pauvre.
Elle a fait tellement, elle était une mère pour tous. Une vraie meneuse. Les Sud-Africains savent la torture et la douleur qu'a subi Winnie quand Mandela était en prison. Elle a été bannie, elle a été emprisonnée. Toute cette douleur, mais elle n'a jamais cessé de se battre, n'a jamais cessé la lutte.
Outre la population, des personnalités sud-africaines comme le président Cyril Ramaphosa ou l'opposant de la gauche radicale Julius Malema sont aussi venus présenter leurs condoléances. Winnie Mandela était une personnalité très controversée, mais l'heure aujourd'hui est clairement à la célébration de son combat contre l'apartheid. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
Et en Afrique du Sud toujours, 6 mineurs ont été tués et plusieurs autres blessés hier soir dans la province du Limpopo, dans le nord-est du pays. Un bus qui les transportait vers leur mine a été attaqué par un groupe d'inconnus qui ont jeté des cocktails Molotov dans le véhicule qui a immédiatement pris feu. La police a ouvert une enquête pour tenter de retrouver les auteurs.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est revenu sur sa décision et suspend l'application de l'accord conclu avec l'ONU pour la réinstallation de migrants africains dans des pays occidentaux. Une décision qui place le premier ministre israélien sous les feux des critiques. Les précisions de John Lindon.
J'ai décidé de suspendre l'application de cet accord et d'en repenser les termes, a écrit M. Netanyahou sur sa page Facebook, affirmant avoir été attentif aux critiques contre cet accord qui devait voir plus de 16 000 migrants soudanais et érythréens rejoindre des pays occidentaux. Dans le cadre de cet accord, Israël s'engageait aussi à donner le statut de résident temporaire pour chaque migrant quittant le pays, avait précisé M. Netanyahou avant de revenir sur ce compromis. L'Italie, tout comme l'Allemagne, citée par M. Netanyahou comme pays de réinstallation, ont indiqué ne pas être concernés par cet accord, un accord qui a aussi provoqué de vives réactions au sein de la droite israélienne. La suspension de l'accord avec le HCR a été saluée par des responsables de la droite et les militants opposés à la présence des migrants en Israël. Elle a en revanche été vivement critiquée par l'opposition. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés qui en a déploré la suspension, cet accord prévoyait que les autorités israéliennes mettent au point des programmes pour encourager les demandeurs d'asile érythréens et soudanais à déménager des quartiers sud de Tel Aviv.
Nouvel incident à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Un Palestinien de 25 ans a été tué ce mardi par des tirs de soldats israéliens. 17 Palestiniens ont été tués dans cette zone depuis vendredi, d'après les autorités locales. Le ministre israélien de la Défense a prévenu que les Palestiniens de la bande de Gaza qui s'approcheraient de la frontière israélienne mettront leur vie en danger. Première personne condamnée dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. Un avocat néerlandais ayant travaillé avec l'ex-directeur de campagne de Donald Trump a été condamné à 30 jours de prison après avoir menti dans le cadre des investigations menées par le procureur spécial Robert Mueller. Le président russe entame une visite de 2 jours en Turquie en compagnie de Recep Tayyip Erdogan, son homologue turc. Vladimir Poutine a donné le coup d'envoi de la construction de la centrale nucléaire d'Akuyu dans le sud du pays par le géant russe Rosatom. Les deux dirigeants se sont ensuite isolés pour un entretien en tête-à-tête à la veille d'un sommet trilatéral sur la Syrie à Ankara, où ils seront rejoints par le président iranien Hassan Rouhani. Le président a également affirmé que son pays allait accélérer la livraison des systèmes russes de défense antiaérien S-400 commandés par la Turquie. Et puis la grogne se poursuit en France. Les cheminots ont entamé un mouvement de grève qu'ils annoncent massif et qui pourrait paralyser le pays pendant 3 mois. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Écho avec Eric Manirakiza.
La Société financière internationale estime que quelques 100 millions de personnes en Afrique subsaharienne devraient rejoindre les classes moyennes et celles à revenus élevés d'ici 2030. Les dépenses des ménages devraient augmenter de 5% par an dans la région. Le Sénégal, le Mozambique, le Rwanda, le Niger et l'Éthiopie arrivent en tête des pays qui connaîtront une forte croissance de la consommation des ménages. Le Sénégal recevra de l'Union européenne 28 millions de dollars pour la mise en place de projets de développement sectoriel en vue de diversifier l'économie nationale. Ce financement porte essentiellement sur la sécurité intérieure, le transport et l'exécution du programme pour la compétitivité en Afrique de l'Ouest. Le prochain round de discussion sur le traité de libre-échange nord-américain à l'ENA pourrait reprendre cette semaine à Washington. C'est pour tenter de lever les points contentieux en suspens, en particulier les règles d'origine dans l'industrie automobile. Une 7e session de tractation s'était déroulée fin février au Mexique sans avancée concrète. L'administration Trump accuse l'ALENA d'avoir détruit l'emploi aux États-Unis. D'après l'accord, au moins 62,5% des composants d'un véhicule doivent être fabriqués dans l'un des 3 pays signataires de l'ALENA pour bénéficier d'exonération de droits de douane. Les États-Unis veulent relever ce pourcentage à 85% et que 50% des pièces soient d'origine américaine. Le Mexique et le Canada rejettent cette proposition.
Allez, plein feu sur les stades, c'est les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgan.
Le Maroc demande des explications à la FIFA.
Et oui Morgan, Fawzi Lekia, président de la Fédération Royale Marocaine de Football, a envoyé une lettre à Gianni Infantino, président de la FIFA, pour dénoncer les changements de dernière minute dans les conditions d'organisation du Mondial 2026. La FIFA est soupçonnée de favoriser la candidature États-Unis-Mexique-Canada aux dépens de celle du Maroc. Le royaume chérifien estime avoir reçu le système de notation de la Task Force seulement 2 jours avant son dépôt de dossier. La Task Force est l'instance qui doit évaluer les candidatures avant de les présenter au conseil de la FIFA. Fawzi Lekia n'a pas manqué d'exprimer, je cite, les inquiétudes du Maroc sur l'équité et la transparence de la procédure d'appel d'offres.
L'affiche Juventus de Turin, Real Madrid de lancer les quarts de finale aller de la Ligue des Champions ce soir.
Juve Real, c'est un remake de la finale de l'année dernière. Le club espagnol s'était imposé, on se rappelle encore, 4-1. C'est aussi un choc entre un club italien, 2 fois finaliste en 3 ans, et le double tenant du titre espagnol. Une opposition de style entre des Turinois plus à l'aise en défense, seulement 5 buts encaissés depuis 25 matchs, toutes compétitions confondues, et les madrilènes connus pour leur puissance offensive. Cristiano Ronaldo, ménagé ce week-end, arrive lancé avec 23 réalisations sur ses 13 dernières sorties en club tout comme en sélection.
À la même heure et dans l'ombre de cette affiche se joue le match Séville-Bayern.
Une rencontre a priori déséquilibrée Morgan. Les Munichois sont à leur 7e quart d'affilée et les Andalous disputent leur 1er quart de finale de Ligue des Champions depuis 1958. Mais méfiance, le Bayern s'est incliné lors de ses 5 derniers déplacements en Espagne et Séville n'était déjà pas favori face à Manchester United qui l'a pourtant éliminé en 8e de finale.
Et autre choc demain, Yacouba?
Oui Morgan, Kevin De Bruyne et Mohamed Salah vont s'affronter sous les couleurs de Manchester City et Liverpool dans un quart de finale de Ligue des Champions 100% anglais. Salah impressionne avec ses 37 buts dont 29 en Premier League pour un Liverpool chatoyant qui lutte avec Manchester United pour la place de dauphin de City.
Merci Yacouba.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour. En Guinée, le président Alpha Condé et le chef de l'opposition, Seydou Dalein Diallo, ont conclu un accord pour résoudre le contentieux sur les résultats des élections locales du 4 février et mettre fin aux manifestations. C'est ce qu'ont annoncé les deux partis. John Lindon a joint Bahouri, premier vice-président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti de Seydou Dalein Diallo.
Dans le cadre normal du fonctionnement des institutions du pays, c'est une rencontre tout à fait normale puisque la loi l'indique. Le chef de file de l'opposition a un statut, disons, d'une institution dans notre pays et la loi indique qu'il doit rencontrer régulièrement le président de la République pour échanger sur l'évolution de la situation du pays. Si c'était ça, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ce qui est là où le bât blesse, c'est lorsque le chef de file dit de l'opposition organise régulièrement des manifestations qui occasionnent des pertes en vie humaine, des dégâts de biens économiques. Moralement, sur le plan politique, ce n'est pas acceptable.
Vous le disiez donc tantôt, Seydou Dalein Diallo, on le sait, a perdu les élections locales, mais il est aussi celui qui descend régulièrement dans les rues et avec lui de nombreux jeunes. Et le voilà qui s'en va rencontrer le président Alpha Condé. Qu'est-ce que cela signifie?
C'est vraiment un manque total de stratégie parce que ce n'est pas la première fois. Avant l'élection présidentielle de 2015, il fait descendre les gens dans la rue pour dire sans les élections communales, avant les présidentielles, on n'acceptera pas d'aller aux élections. Quelques temps après, avec une acceptation de la mise en place de délégations spéciales sur l'ensemble du territoire national où les deux blocs, RPG d'un côté et UFDG de l'autre, se sont partagés la gouvernance locale, on est allé aux élections présidentielles de 2015.
Est-ce que, à votre avis, cette rencontre entre Seydou Dalein Diallo et le président Alpha Condé va régler le problème politique en Guinée et les différends qui vont avec?
Pour les observateurs qui sont lointains, c'est difficile de comprendre la logique qui préside le comportement de certains responsables en Guinée. À l'heure actuelle, M. Dalein est empêtré dans des difficultés énormes au sein de l'UFDG où son leadership est fortement contesté, un. Deuxièmement, il y a des dossiers judiciaires d'une extrême gravité qui sont en instance, mais je pense qu'il est déjà has-been. Il tente coûte que coûte de résister en usant de méthodes peu orthodoxes. La sagesse aurait demandé à faire preuve de plus de retenue et d'intelligence pour savoir tirer sa révérence.
Voilà, c'était Bahouri, premier vice-président de l'UFDG.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la vie et l'héritage de Winnie Mandela, décédée lundi à l'âge de 81 ans. Comment a-t-elle contribué à la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud? Quel rôle a-t-elle joué en tant que militante de l'ANC durant les 27 années de prison de son époux Nelson Mandela, l'icône de la nation arc-en-ciel? L'image de celle que le peuple sud-africain appelait affectueusement Winnie a-t-elle été écornée par des dérapages politiques et des affaires de corruption? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le transfèrement du djihadiste malien Mohamed Al-Hassan à la CPI est à nouveau une manifestation de l'hypocrisie internationale à l'encontre du peuple malien. C'est en tout cas ce que pense le journaliste Abdoul Niang. Joint au téléphone à Bamako par la VOA, il déclare que les vrais auteurs des crimes dont est accusé Al-Hassan sont en liberté. Plus de précisions dans cet entretien qu'il a eu avec Irénée Arman Umbo.
Nous avons accueilli cela comme une autre hypocrisie de la part de la Cour pénale internationale, parce que jusque-là, on ne voit que les menus chrétiens dans les mailles de la justice, alors que les véritables criminels sont toujours là, entre guillemets, fréquentables, ou bien leur libération est tout le temps réalisée sous la pression, parce qu'on voit qu'on fait même la pression sur nos autorités pour libérer les grands criminels, les grands terroristes.
Mais qu'est-ce qui fait la pression sur les autorités?
Moi, je vois surtout la communauté internationale, surtout la France, qui est aussi une puissance qui est derrière ça. On se rappelle la libération de Wadou Sen sous la pression de la France en contrepartie de la libération d'un otage. Vous avez vu quelle pression ils ont fait sur nos autorités. Le même Wadou Sen, qui est un véritable criminel, un dinosaure de ces terroristes, si vous voulez, de ces djihadistes, qui a eu à faire pas mal de crimes et d'atrocités au nord de notre pays.
Vous appelez Mohamed Alassane Menufretin, mais il est accusé quand même de plusieurs crimes, dont torture, viol, esclavage sexuel, persécution pour motifs religieux. Pour ne citer que ceux-là, quand même, c'est des crimes assez graves, non?
Vous voyez les crimes qui ont été commis au nord de notre pays de 2012 à maintenant. Et prendre quelqu'un comme Mohamed Alassane comme étant l'auteur de ces crimes-là, ça me fait rire et ça me fait sourire. Quelqu'un que personne n'a connu d'ailleurs, si ce n'est pas maintenant. Ça veut dire qu'il n'est pas parmi les gens qui se sont illustrés dans ces atrocités, hein, dans ces cruautés. Et qu'on prenne ce dernier aujourd'hui pour brander fort de cela un trophée aujourd'hui, pour moi, c'est tellement ridicule et c'est même une insulte à l'endroit de l'opinion nationale et internationale.
La Cour a mené ses enquêtes avant d'identifier Al-Hassan, donc elle a des preuves contre cet individu.
Oui, elle a mené des enquêtes. Certainement, elle aurait bien découvert que Mohamed Alassane n'était qu'un simple exécutant parmi tant d'autres. Il y a des vrais décideurs qui sont là. Il y a des vrais auteurs, des vrais criminels qui sont là. Donc, lui n'était qu'un simple subalterne, tenu d'exécuter les décisions venant de la hiérarchie. Et ceux qui composaient cette hiérarchie-là sont toujours là.
Notre confrère Abdoul Niang.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Les centres de réinstallation des réfugiés aux États-Unis licencient du personnel et réduisent les opérations à la demande du département d'État américain. L'administration Trump a décidé d'accueillir seulement environ 10 000 réfugiés au cours de la première tranche de l'exercice fiscal 2018, le nombre le plus bas depuis les 38 ans d'existence du programme américain d'admission des réfugiés. Pour le gouvernement, les coupes sont nécessaires pour améliorer l'efficacité des agences de réinstallation. Mais les militants pro-réfugiés mettent en garde contre les effets à long terme de cette politique. Bill Rogers de la VOA s'est rendu dans un de ses centres à Lancaster, en Pennsylvanie. Son reportage est relaté par Jacques Aristide.
Vous ne pouvez pas conduire sans un permis.
C'est l'une des règles qu'ont à apprendre les Ebeoula dans leur nouveau pays, beaucoup absorbés un jour après leur arrivée à Lancaster sur un vol en provenance d'Afrique, épuisés. Cette famille congolaise écoute les membres du personnel de Church World Service, eux-mêmes d'anciens réfugiés. L'accueil des réfugiés ne représente que l'une des nombreuses activités de CWS Lancaster, mais comme les arrivées sont en baisse, certains employés ont été remerciés. Sheila Mastro Pietro, directrice de ce centre, craint ce qui risque de se passer si la politique change à nouveau à l'avenir pour admettre plus de réfugiés.
Alors que nos employés sont mis à pied et sont obligés de se recycler dans d'autres domaines, il va falloir refaire le tout et cela aura un coût. Le gouvernement américain a de l'argent. Nous devons de nouveau accueillir au moins 75 000 réfugiés par an.
L'un des coûts a trait au nombre réduit de personnes formées pour aider les réfugiés à commencer leur nouvelle vie. Ce groupe de Congolais est arrivé à Lancaster il y a moins d'un mois. Congolais, il était lui-même réfugié, arrivé à Lancaster il y a 2 ans.
Les gens, la langue, la culture, tout est différent. Notre anglais est un peu différent de l'anglais africain, donc pour changer d'une culture à une autre, ça a pris du temps. C'est un grand défi.
Trouver du travail n'est pas chose facile, mais CWS Lancaster parvient à placer un grand nombre de réfugiés dans des entreprises locales, au marché central de la ville, où ils sont nombreux à faire leurs emplettes, y compris les nouveaux arrivants. Il y a des mots chaleureux. Bruce Markey, directeur du marché de Mec.
Nous devrions être une ville ouverte. Nous devrions inviter ces gens ici. Je pense que c'est merveilleux pour nous en tant qu'habitants de cette ville. Je pense que cet accueil permet de rassembler beaucoup de cultures. Vous devez pouvoir ouvrir vos bras aux gens qui en ont besoin.
Mais d'autres sont en faveur de la politique migratoire plus restrictive de l'administration Trump. Mark Verginis, président de la firme Myra's Financial Partners.
Je suis pour un coup de frein. Il faut nous assurer que nous sommes en train d'accueillir ici. Je comprends aussi le point avancé par le milieu des affaires et entraîne notamment à une immigration basée sur le mérite. Face à la masse qui arrive si vite, vous devez avoir un plan.
Pour la famille Ebeoula installée dans leur nouvelle maison, il faut s'adapter aux températures contraire au climat chaud de l'Afrique. Après avoir fui le Congo et vécu des années dans un camp de réfugiés tanzaniens, Amkabi Ebeoula veut la paix. Manger un repas traditionnel congolais aide à éviter d'avoir le mal du pays et éloigner momentanément le stress de commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais une fois le repas fini, la vaisselle faite et les plats rangés, la réalité d'avoir quitté l'Afrique pour toujours revient vite à l'esprit.
Mardi noir dans les transports en France, la grève des cheminots paralyse le pays. Les syndicats de la SNCF protestent contre la suppression de l'embauche au statut spécial, les modalités d'ouverture à la concurrence et la transformation de la SNCF en société anonyme. Éric Manirakiza, adjoint à Paris, l'un des spécialistes du mouvement syndical en France. Henri Rey, directeur du Centre de recherche politique à Sciences Po.
Pour l'instant, il n'y a pas un mouvement massif de désapprobation de ce mouvement, mais il vient juste de commencer. Et donc les effets n'en sont pas encore véritablement ressentis. Les Français sont en gros partagés en deux camps, entre ceux qui soutiennent ce mouvement, non point pas simplement pour les cheminots eux-mêmes, mais en prévision aussi des réformes à venir, et notamment les fonctionnaires, quoi, tous les agents du service public. Il y a cette opposition de ceux qui, évidemment, trouvent que on ne les empêche de travailler, de se rendre, d'aller et de venir, de se rendre là où ils doivent aller pour leurs affaires personnelles ou pour leur travail.
Est-ce que c'est une grève qui va réellement tenir longtemps ?
On ne peut pas le dire, mais il y a une forte détermination de part et d'autre, forte détermination du gouvernement à ne pas céder, car d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire on peut faire quelques concessions, on peut débattre à la marge, mais quand une décision a été arrêtée, elle est légitime puisque le président a été élu par le peuple français et donc est dépositaire de cette légitimité. Il y a du côté de l'exécutif une très grande détermination et du côté des grévistes, alors là le camp syndical est un peu hétérogène, mais de la principale organisation chez les cheminots qui est la CGT, il y a une très forte volonté de mener un combat qui en plus de cela anticipe en quelque sorte la réforme des retraites et d'autres éléments qui font partie du programme d'Emmanuel Macron.
Mais ils ne pourront pas être payés pendant des jours de grève.
Non, ils ne seront pas payés normalement. C'est toujours à la fin de la grève qu'on règle cette question. C'est-à-dire à la fin de la grève, ça fait partie des négociations, de savoir si il y a une certaine indemnisation, des possibilités de rattrapage.
Est-ce que des syndicats ont des moyens de payer les grévistes ?
Non, pas en France. Il n'y a pas ces caisses de grève qui permettent dans d'autres pays de tenir longtemps, de verser des allocations importantes aux grévistes. Ça ne fonctionne pas bien en France, non.
Et sur les revendications elles-mêmes, est-ce que les cheminots ont-ils totalement raison ou le gouvernement a-t-il totalement raison ?
Si le gouvernement ou les cheminots avaient totalement raison, peut-être qu'il n'y aurait pas de conflit. Évidemment, il y a des craintes d'un côté et de l'autre côté, il y a des impératifs, mais il y a évidemment des arguments qui s'opposent et des intérêts qui se confrontent. Oui.
Les cheminots à la retraite, ils ont quand même des avantages exorbitants que d'autres Français n'ont pas.
La réforme de la retraite des régimes spéciaux, dont font partie les cheminots, cette réforme des statuts spéciaux n'est pas sur la table. C'est déjà en partie engagé par des réformes précédentes. Mais il n'y a pas de modification du statut.
D'après vous, quelles sont les concessions possibles des deux côtés ?
Il y en a une qu'il ne peut pas faire parce qu'il a des engagements européens, c'est l'ouverture à la concurrence.
Henri Rey, directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po à Paris. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma, Morgane Guiriec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui.